Bonjour à tous et bienvenue sur les routes de l'Asie, épisode numéro 68, Darjeeling et Sikkim en terre himalayenne. Vous êtes bien sur les routes de l'Asie, le podcast du voyage d'aventure et découverte en Asie. Mon nom est Romain Lazzarotto et je suis comme toujours heureux de me retrouver dans vos oreilles pour un nouvel épisode. Et on continue le voyage là où on l'a laissé dans l'épisode précédent en Inde, toujours bien sûr avec Thierry Robinet comme guide privilégié. Et aujourd'hui on part s'évader dans une autre région extraordinaire du pays, l'Himalaya, ses contreforts avec la ville de Darjeeling et la haute montagne dans l'ancien royaume du Sikkim. Bref, un merveilleux programme pour cette fin d'année qui annonce l'hiver et le froid. Alors enfilez vos doudounes et bienvenue dans l'Himalaya indien. Bonjour Thierry, bienvenue sur les routes de l'Asie.
Bonjour Romain.
Eh bien écoute, avec toi aujourd'hui, on va continuer notre immense voyage en Inde, cet énorme pays, ce sous-continent. On a fait beaucoup de choses ensemble sur l'Inde, mais quand on regarde la carte de l'Inde, finalement, on se rend compte que on a fait une partie, on n'a pas encore fait la moitié, je pense, du pays, avec tout ce qu'on a visité. Mais aujourd'hui, on avait envie d'emmener les voyageurs dans la partie himalayenne. Alors il y a beaucoup de parties himalayennes en Inde, mais il y a ce petit état du Sikkim qui est absolument fabuleux et qui a tes faveurs. Et on va y passer du temps. C'est un état qui est vraiment coincé entre le Bhoutan, le Népal et le Tibet. Et même au sud, on n'est pas très loin du Bangladesh. Donc au niveau géographique, c'est intéressant. Quand on voit un petit peu le nord-est de l'Inde et qu'on va dans ces sept états, on voit qu'il y a un petit passage de terre là, et qui va jusqu'à ces sept états. Et le Sikkim fait partie de ce passage. C'est un tout petit état. C'était un ancien royaume également. Donc on va apprendre pas mal de choses aujourd'hui sur le Sikkim. Et avant de parler du Sikkim et des magnifiques vues qu'il offre sur les plus grands sommets de la planète, on va arriver à Darjeeling, qui est évidemment un nom très connu. Darjeeling n'est pas techniquement dans le Sikkim, c'est pas très loin, mais c'est au Bengale occidental. Mais ça reste la porte d'entrée idéale pour aller au Sikkim. Et puis, de toute façon, Darjeeling vaut le détour pour ses plantations de thé, bien sûr. Mais il n'y a pas que ça à voir à Darjeeling, on va le voir avec toi. Donc, pour commencer, parle-nous de l'arrivée à Darjeeling. Qu'est-ce qui se passe quand on arrive là-bas, dans cette partie de l'Inde?
Bon Romain, merci, tu as déjà parlé de beaucoup de choses, c'est bien, bravo, tu es un interlocuteur privilégié donc pour moi. Darjeeling, oui, donc tout d'abord il faut commencer par ces royaumes himalayens de l'est de l'Inde. Finalement, l'est de l'Inde est mal connu, on a déjà parlé de l'Arunachal Pradesh et certains monastères tibétains qui sont près de la frontière chinoise. Et c'est vrai qu'aujourd'hui nous allons parler de Darjeeling et nous allons parler du Sikkim. Le Sikkim qui est un grand royaume himalayen. Je pense que tout le monde connaît Darjeeling. Darjeeling, de 7 à 77 ans, on dirait, notamment parce que Darjeeling est fameux dans le monde entier pour son thé. D'aucuns disent que le thé de Darjeeling, c'est le thé number one in the world, le numéro un. Personnellement, d'être allé très souvent à Darjeeling, j'avoue que quand je bois du thé à Darjeeling, je le bois nulle part ailleurs de cette façon. Et ce goût-là qui ressort, il n'y a que là-bas que j'ai trouvé, chez les planteurs. Par contre, le thé de Ceylan aussi est extraordinaire. On y reviendra dans une prochaine émission, notamment quand on ira un petit peu dans la région des plantations près du Picadan, notamment. Où là, il y a un thé aussi de grande qualité. Mais pour revenir à Darjeeling, c'est une station d'altitude. On est à plus de 2000 mètres d'altitude, 2114 mètres exactement. Alors, il y a deux moyens pour y arriver. Comme tu l'as dit, Romain, Darjeeling fait partie du Bengale occidental et pas du tout du Sikkim. Beaucoup de gens auraient l'impression que la capitale du Sikkim, c'est Darjeeling. Pas du tout, c'est Gangtok. Donc, on arrive finalement par... si vous arrivez par avion, vous arrivez par Bagdogra. Si on arrive par la route, on peut arriver par Siliguri. Donc, il y a deux façons de monter sur Darjeeling. Donc, on part de la zone, on a 100 mètres d'altitude, à peu près 100 ou 200 mètres, je sais pas exactement, et on va monter jusqu'à plus de 2100 mètres. La route va serpenter comme ça, à travers les champs de thé, jusqu'à la ville de Darjeeling. Mais pour moi, qui suis un voyageur, qui suis un curieux, et qui aime tout ce qui est typique, je crois que faire le trajet avec le Darjeeling Himalayan Railway, on l'appelle le Toy Train d'ailleurs, ce train, le train jouet. C'est un train qui part de Siliguri et qui va vous mener jusqu'au centre de Darjeeling. par le chemin des plantations. Donc vous avez un paysage extraordinaire, donc c'est un train à crémaillère. Des moments, ça monte tellement qu'ils sont obligés, le train a des crémaillères dessous, donc c'est comme des crochets, parce que sinon le train n'arriverait pas à monter. En plus, avec sa locomotive qui fume devant, on est toujours à l'époque des Anglais de début du XXe siècle. Donc j'ai l'impression que ça, les gens l'ont bien gardé, c'est ce côté un peu néocolonialiste, de l'Inde qui reste un petit peu le temps des Anglais, le temps de la grandeur des Indes, où les gens, la haute société, prenaient le train pour monter à Darjeeling, parce que dans les basses vallées, il faisait une chaleur étouffante, surtout pendant la mousson, et on montait sur Darjeeling pour respirer, et puis pour aller boire du bon thé, voilà quoi. Donc ce chemin de Siliguri sur Darjeeling, il est assez fantastique. Donc ce train, si vous faites donc Siliguri-Darjeeling, ça va vous prendre quelques heures. Donc ça fait une journée entière, il faut au moins 8 heures pour monter. Ce train fait partie du UNESCO World Heritage, c'est-à-dire que c'est quelque chose à protéger à tout prix, dans une zone en plus qui est très belle. Et certaines locomotives, parce qu'ils ont plusieurs trains, datent de 1892, donc c'est pas d'aujourd'hui. Et ça marche impeccable. Par contre, la fumée, bon, est pas tout à fait en rapport avec aujourd'hui notre modernisme, où on a envie d'être libre de pollution. Mais je crois que ça fait partie du jeu. Voilà. Darjeeling est une ville posée sur des collines. Il y a plusieurs collines, en fait, qui se tiennent, qui se chevauchent. Et en fait, la ville est posée au sommet. Donc, c'est une ville qui domine. Autour, vous n'avez que des plantations de thé, que des jardins de thé. Darjeeling, on l'appelle la reine des collines, parce qu'elle est réputée, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans le monde entier pour son thé. Et il y a, je crois bien, 85 jardins de thé. Quand on parle de jardin, c'est pas comme les petits jardins chez nous, dans nos propriétés, non. Un jardin de thé peut être un jardin de 100 ou 200 hectares. Donc, si vous voulez, les gens qui ont ces plantations maintenant, ce sont des grands propriétaires de la haute société indienne, qui sont aussi travaillent en poule avec les Anglais, etc. Et ce thé est vendu, je pense que beaucoup doivent le savoir aussi, ce thé est vendu chez Fauchon, par exemple, à Paris, et il part sur les plus grandes capitales du monde, parce que c'est un thé des plus réputés. Alors, ce qui est intéressant quand on est à Darjeeling, si vous êtes en solitaire ou en groupe, voilà, n'oubliez jamais d'aller visiter à l'extérieur de la ville, à quelques kilomètres, aller chez un planteur et passer la matinée au moins quand les jeunes pousses de thé arrivent donc dans l'usine. Et où là, tous les matins, il y a le patron de la société ou un assistant directeur de la société va goûter tous les cépages. Donc il va séparer, on regarde, donc ils ont on les appelle les OP, VOP, VSOP. Donc c'est comme si vous voulez dans le vin, donc on a des vintage. On a quelque chose, OK, ça c'est le premier grade, c'est le deuxième grade, c'est le troisième grade. Et comme ça, on peut savoir quel est le meilleur, quel est celui-là. Il y a du thé d'or, il y a du thé blanc. Le thé blanc, d'ailleurs, de Darjeeling est assez... On le connaît mal. C'est peut-être pas le meilleur, mais il a quand même un parfum, un arôme bien particulier. Chez le planteur, ou même dans une petite auberge de Darjeeling, au bord de la rue, là, vers le centre-ville, vous vous asseyez et puis on vous sert ce thé. Il a une couleur d'or. C'est vraiment le thé de Darjeeling, la couleur en or. Donc on voit qu'il diffère de tous les autres thés. C'est un thé, c'est un thé blond. C'est pas un thé comme le thé de Ceylan qui serait beaucoup plus prononcé, ou le thé de l'Assam qui serait noir, lui. Le thé de Darjeeling est un thé d'or. Et ça, ça fait toute la différence. Comme Darjeeling s'étage entre 2000 et 2600 mètres d'altitude, sur les premiers contreforts de l'Himalaya, parce que le haut Himalaya est derrière, donc le thé a trouvé vraiment son endroit idéal pour pousser. Donc moi je vois, je suis allé à Ceylan, je suis allé en Inde du Sud, je suis allé en Assam aussi, donc pour parler de cette région de l'Inde, le minimum d'altitude c'est 1000 mètres. Au-dessous, le thé n'est pas bon. Il a pas d'arôme, il a rien, quoi, il est pas prononcé. Et notamment donc la région de Darjeeling qui est à plus de 2000 mètres, là le thé est devenu quelque chose de totalement différent. La population de Darjeeling, c'est un mélange de beaucoup de choses. On est en Inde, hein, on est dans le Bengale de l'Ouest, mais malgré tout, la grande majorité de la population est d'origine népalaise. Elle est arrivée ici il y a plus de 100 ans. C'est une ville, finalement, qui est... Elle a plus de 100 ans, elle a eu un statut d'État au sein de l'Union indienne. Elle est séparée du Bengale de l'Ouest, mais elle est rattachée depuis l'époque des Anglais. Donc, elle a toujours gardé son statut un peu d'autonomie personnelle. Et je pense que le fait que le thé soit dans cette région-là, il y a beaucoup contribué. Justement, c'était une cité à part. Alors aujourd'hui, c'est sûr que la croissance de la population va crescendo. Personnellement, moi j'ai connu Darjeeling il y a plus de 20 à 25 ans. C'était vraiment la petite ville d'altitude. C'est vrai qu'aujourd'hui, avec le boom touristique aussi, on ne peut pas l'oublier. Et le fait que le thé devient quelque chose internationalement parlant, c'est quelque chose d'important sur Darjeeling. La station change. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'immeubles qui se sont construits, parce qu'en plus, comme c'est des collines, tout est construit à flanc de collines, et que parfois, le charme a été un peu cassé. Mais on retrouve quand même toute la splendeur, dans certains quartiers de Darjeeling, la splendeur des vieux immeubles british, des hôtels qui sont en plus à la meilleure place de Darjeeling, et qui regardent au fond l'Himalaya. Et la première chose qu'on voit quand on est à Darjeeling, comme par exemple quand on est au duplex Namasté, qui sont mes grands amis Anne-Marie et Binay Sharma, quand on est sur le balcon du Namasté duplex et qu'on regarde au loin, qu'est-ce qu'on voit? La première chose, le Kanchenjunga. Le Kanchenjunga est la troisième montagne du monde, 8549 mètres. Donc, je vais vous en parler plus loin, parce qu'il y a un trek qui va presque au pied du camp de base, et ça aussi c'est un des grands moments de ce voyage. Mais ça, après, c'est le Sikkim, on en parle plus loin.
Alors après être délecté de ce magnifique thé de Darjeeling, qu'est-ce qu'on allait voir dans la ville? Si on s'aventure dans la ville, quelles sont les curiosités pour le voyageur qui est curieux?
Le centre-ville, c'est tout petit, finalement, parce que la ville s'est écartée sur les collines. Mais quand on le centre même, l'âme de Darjeeling, c'est Chorasta. Chorasta, c'est une place, donc avec son ancien kiosque à musique, comme l'époque des Anglais ou comme on peut voir en Europe. Et souvent, bon, comme je vous ai dit que c'est une population de Népalais, les Népalais viennent prendre le soleil souvent et se rencontrer. C'est l'endroit où les garçons et les filles viennent se rencontrer. En plus, il y a plein de petits bars qui sont sympas avec des terrasses. On se croirait un petit peu comme en France parfois. Et on regarde. On regarde les gens qui passent à droite, à gauche. Et ce que j'aime beaucoup sur Chorasta, et puis les rues adjacentes qui descendent un petit peu à l'intérieur de la ville, ce sont les bouquinistes. Ah, vous avez des bouquinistes extraordinaires qui vendent tout ce que l'Himalaya compte de livres, d'épopées, de récits, d'ascensions, en plus de vieux livres de l'époque des Anglais, de vieux livres sur l'histoire, l'historique de Darjeeling, de vieux livres sur l'histoire des Indes même. Donc c'est assez fabuleux. Ce qui est intéressant aussi, près de Mall Road, donc, il faut aller voir l'observatoire. L'observatoire, on l'appelle Danda sur place en langue locale, parce qu'il y a un temple hindou qui est très important pour la ville, parce qu'il protège la ville. Un petit peu, si vous voulez, quand on est à Swayambhunath, à Katmandou. Le temple de Swayambhu, qui est sur sa colline, c'est lui qui protège la ville de Katmandou. Katmandou est une ville à majorité indienne. Swayambhunath est un temple et monastère bouddhiste. Et là, l'observatoire de Darjeeling, Danda, donc ce temple hindou, protège une communauté qui est à majorité quand même bouddhiste. Donc vous voyez, c'est quelque chose, c'est similaire. Mais sur place, en plus, ce temple, où il est bien, si on peut y aller à l'heure de la puja, c'est qu'il est mixte. C'est un temple mixte hindou et bouddhiste, avec il y a un prêtre et un lama qui officient en même temps. Donc c'est rare, c'est rarement vu ailleurs, que ce soit en Inde ou que ce soit dans d'autres pays. Et puis vous avez, comme à Swayambhunath à Katmandou, vous avez des singes qui sont partout sur les collines, qui courent même sur les drapeaux à prière. Et faut même attention, parce que de temps en temps, vous en avez un qui vous saute dessus, donc qui ne vous prennent pas votre appareil photo pendant que vous êtes en train de prendre une photo. Et ce qui est extraordinaire, c'est que vous avez des drapeaux de prière, mais alors par milliers qui descendent très haut du sommet du stupa ou du sommet du temple et qui descendent le long des collines. Mais il y en a des milliers avec les anciens qui sont complètement abîmés, mangés par le vent, par la pluie. Et vous avez tous les jours, on en remet des nouveaux. Donc on a l'impression d'être au milieu d'une forêt d'étendards comme ça. Ce qui est intéressant aussi, que j'aime beaucoup, c'est le jardin botanique. Il a été créé à la fin du, si je ne me trompe pas, à la fin du 19e siècle. Et il a une collection de plantes himalayennes, notamment des orchidées très rares qui poussent en Himalaya, qui valent la peine d'être vues et prendre des photos aussi, et surtout savoir quel type d'orchidée on a pour les gens qui sont amoureux de ce genre de botanique. Moi, quand je vais à Darjeeling, jamais je ne passerai sans m'arrêter à l'Himalayan Mountaineering Institute, parce que c'est là que c'est l'institut de montagne de Tenzing Norgay, donc qui a été le premier à atteindre le sommet de l'Everest avec Sir Edmond Hillary, l'anglais, en 1953, mon année de naissance. Ben, quand on arrive dans ce Mountain Institute, on retrouve toute la vie des Himalayens. On retrouve dans ce musée, vous avez tous les chaussures, les piolets, les crampons, les vêtements des premières expéditions dans les années 50, dans les années 60. Moi, je me rappelle Maurice Herzog quand il a fait l'Annapurna premier 8000, quand il était avec Lionel Terray, mais ils étaient habillés mais comme des... C'est fou, quand on voit la différence qu'il y avait dans ces années 50, ou même Sir Edmond Hillary aussi, comment il était habillé avec Tenzing, Sherpa Tenzing, et ce qu'on voit maintenant les Himalayens. Et d'ailleurs, c'est tout expliqué dans le musée. On voit maintenant les nouveaux équipements, etc. Donc c'est un monde. Et on voyage à travers, comme ça, ce monde des Himalayens. Et vous avez des tas de photos de toute la montagne, beaucoup de photos du Kanchenjunga, photos de l'Everest, bien sûr, et de la conquête des grands sommets du monde. Donc moi, si vous allez à Darjeeling, n'oubliez pas de vous arrêter un moment à l'Himalayan Mountaineering Institute.
Et ça n'a pas d'équivalent même à Katmandou, qui est pourtant le centre névralgique des grandes conquêtes de ces montagnes en Himalaya.
Non, ça n'a pas. Pourquoi ? Parce que, pour la simple raison que Tenzing Norgay était de Darjeeling. Donc il était d'ici, donc Darjeeling est tout proche du Népal de toute façon. Hein. Pour les Népalais, moi qui suis tellement souvent au Népal, je connais beaucoup de gens à Katmandou, ils me disent « Ah ben je vais à Darjeeling ». Les gens vont à Darjeeling comme ils vont, je sais pas, moi on est à Paris, tiens on va faire un tour sur la côte. Oui c'est un peu ça. Et donc ils ont des familles, ils ont des relatives. Donc pour Sherpa Tenzing, qui était originaire de Darjeeling, voilà, c'était le meilleur endroit pour lui rendre un hommage appuyé, quoi, parce qu'il était de là-bas. Donc c'est le héros de la ville de Darjeeling. Darjeeling, il y a deux héros, Tenzing Norgay, premier sur l'Everest, et le thé des collines de la région. Bon, il y a une dernière chose aussi qui est importante à visiter, donc je vous ai parlé des rues. Allez vous balader de Chorasta, puis descendez sur les rues à droite à gauche. Vous avez tous les petits restaurants, comme j'ai dit, les bouquinistes, etc. Plein de magasins aussi, vous pouvez acheter des superbes photos de la région de Darjeeling, des superbes photos de l'Himalaya. Donc pour ceux qui sont collectionneurs, c'est très intéressant. Et bon, il y a une chose aussi qu'il faut visiter, c'est le zoo. Moi personnellement, qui ai toujours vécu dans les jungles et qui aime aller à la rencontre des animaux en liberté, je n'ai jamais beaucoup aimé les zoos. Mais parfois, c'est l'occasion de rencontrer certaines espèces qu'on n'aura que très rarement l'occasion de rencontrer ou jamais. Et notamment dans le zoo de Darjeeling, on peut rencontrer un léopard des neiges. Donc le léopard des neiges, c'est déjà un animal qui est très très difficile à voir. On ne le trouve qu'en Himalaya, on le retrouve aussi un petit peu en Chine, mais dans les régions himalayennes. Je peux dire que j'en ai vu un, je l'ai mal vu, mais je l'ai bien entendu. C'est mon Sirdar qui était avec moi dans une expé en Himalaya, lorsque j'ai ouvert la première expé du camp de base de l'Annapurna Sud. J'ai fait le premier trek, donc à l'époque je travaillais pour Delta Voyage, donc qui était une des premières grandes agences françaises de trek d'aventure, et ça j'ai jamais oublié Delta. Et on arrive dans le cirque de l'Annapurna Sud, et je me souviens le premier être que j'ai vu et rencontré, c'était un léopard des neiges. Alors bien sûr, le léopard des neiges, il est blanc un peu tacheté, sur de la neige blanche, puisqu'on était dans un cirque enneigé, c'était difficile à savoir et de comprendre. Mais on a vu les traces de pas, et mon Sirdar, donc le chef d'expédition népalais, Lakpa, il m'a dit, Lakpa, regarde, léopard, snow léopard. Et ça, j'ai compris. Même si je ne l'ai jamais vu. Donc, quand on va dans ce zoo de Darjeeling, là, vous êtes sûr de pouvoir voir des snow léopards, léopards des neiges, et en plus, très rare aussi, les pandas rouges, the red panda. que l'on trouve uniquement aussi dans ces régions d'Himalayennes. Donc voilà, bah vous voyez, ça fait déjà pas mal de choses à voir, rien qu'à Darjeeling. Si vous y restez 2 ou 3 jours, vous n'allez jamais vous ennuyer.
Ouais, j'en ai bien l'impression. Et pour revenir sur les, donc le léopard des neiges et le panda roux, c'est vrai que c'est devenu extrêmement rare, voire impossible de les voir en faisant une balade, enfin en faisant un trek dans la région. Je sais que maintenant ils utilisent pour les documentaires à la télévision ces systèmes qu'ils mettent sur des arbres ou mettent dans la forêt pour capter les animaux quand ils passent devant pour prendre des photos. C'est la seule manière a priori aujourd'hui qu'on a pour les voir, bon pas les voir en vrai, les voir en photo pour le coup, mais c'est vrai que c'est extrêmement rare. Donc aller au zoo, ça sera intéressant. Bon, ben écoute, voilà, Darjeeling, on a passé 2-3 belles journées avec tout ça. Et il est temps maintenant de prendre les chaussures, de bien s'équiper pour le froid et d'aller faire des treks dans le Sikkim, dans cette région montagneuse. Alors, je sais que de Darjeeling, il y a un trek qui est relativement accessible, qu'on peut faire donc au départ de Darjeeling. Et puis après, on peut aller beaucoup plus au nord, et là, aller beaucoup plus en hauteur. Il y a beaucoup de treks à faire au Sikkim, mais je crois que certains demandent des permis ou sont même pas forcément toujours ouverts aux étrangers. Donc on va peut-être parler de ces deux treks, celui qui est accessible depuis Darjeeling et puis plus en hauteur le suivant.
Oui, bah pour les treks, bon, il y a beaucoup de treks. Hein. C'est surtout, dès qu'on est en Himalaya, de toute façon, des treks, il y en a à gogo, comme on dit. Sauf que dans certaines régions, notamment sur le Sikkim, que ce soit le Bhoutan ou même dans certaines parties proches de la frontière chinoise, il y a des treks qui sont fermés, enfin des routes qui sont fermées pour les trekkers parce que, bon, zone militaire. Donc, c'est même pas la peine d'en parler, on n'y va pas. Bon, comme ça, au moins, c'est clair. Mais bon, il y a un trek qui est facile, très facile à organiser au départ de Darjeeling, c'est le trek de Sandakfu. Donc Sandakfu qui est un petit coin de montagne à 3600 mètres d'altitude. Donc c'est pas très haut, c'est déjà un petit peu haut, mais bon, il y a rien de particulier, il y a aucune difficulté particulière. Mais jusqu'à Sandakfu, bon, on a une vue sur toute la chaîne himalayenne qui est particulièrement étonnante. Donc quand on part le matin, vous partez le matin avec votre jeep, en général les jeeps Tata, comme on a toujours en Inde, au départ de Darjeeling, bon, on roule peut-être 2 ou 3 heures. Donc vous arrivez dans un petit village, le village s'appelle Manye Banjang, plus de 2000 mètres d'altitude, et là le trek part. Donc vous allez passer dans des petits villages, on est à la frontière du Népal. Vous descendez de la voiture, déjà il y a un petit poste népalais là qui est là, donc il peut vous mettre un tampon si vous le demandez. Sinon ils ont l'habitude, ils savent que des gens qui vont monter sur le Sandakfu, bon de temps en temps le chemin, même la route passe au Népal, mais sur 200 mètres, elle revient sur l'Inde, et après à un moment donné, hop, vous partez à pied, vous montez, et vous allez dans la première journée qui va vous emmener vers Tumbling. Vous avez marché 4-5 heures, vous aurez peut-être passé 2 à 3 fois la frontière avec un petit gardien népalais qui vous regarde passer, vous avez le drapeau. Moi je trouve ça sympa parce que moi qui ai toujours aimé depuis toutes mes premières années, quand j'avais 16 ans déjà, je partais sur les routes du monde, je partais sur la Turquie, etc. Donc j'avais déjà un passeport, mes parents m'avaient donné l'autorisation d'avoir un passeport, j'étais très jeune. Donc moi mon rêve déjà au départ c'était mon passeport et je voulais des tampons. Donc à chaque fois que je passe, j'ai jamais oublié ça, hein. À chaque fois que je passe devant un poste frontière, comme c'est le cas là quand vous montez donc sur Tumbling, je vais voir le Népalais, je lui dis file-moi un tampon sur mon passeport, pour le fun quoi, juste pour, voilà, pour marquer le coup. Donc quand vous allez monter comme ça en direction de Tumbling, ben, vous allez avoir des paysages de collines de thé au départ. Ensuite, tout doucement, vous allez monter dans des prairies où vous allez voir des vaches, il y a des chevaux, etc. Et notamment, on commence à voir des rhododendrons. Donc le rhodo, bien sûr, il pousse pas à n'importe quelle époque, mais en général, quand on est en saison hivernale, on peut dire, ben, le rhododendron, on le voit très bien. Et donc, au printemps, notamment en février, mars, avril, quand vous avez tous les rhododendrons qui sont en fleurs, c'est à tomber par terre. En plus, il y a une odeur particulière qui s'en dégage, et en plus, ça donne de la beauté au paysage. Donc, sur ce trek, pendant 2 ou 3 jours, vous allez monter donc jusqu'à Sandakfu, comme je vous disais. On dort chez l'habitant, mais ce sont des petites lodges. On mange simplement. Soit vous pouvez prendre vos repas directement dans les petites lodges. Ils vous feront toujours du dal bhat, à la façon indienne. Et vous pourrez manger des chapatis, etc. Mais on mange toujours bien. Moi, je vous conseille toujours d'avoir dans votre poche les biscuits Nebico. Parce que pour moi, l'Inde, le biscuit Nebico a toujours été associé pour moi à l'Inde et au Népal dans les treks. J'en mettais toujours plein les poches, au moins comme ça, je sais quand j'ai une petite faim, je mange ces Nebico et ils sont adorables ces biscuits-là.
Nous faisons une petite pause dans l'interview pour que je puisse vous parler de Very Local Trip, qui me soutient dans le développement de ce podcast et qui vous propose de découvrir ou redécouvrir l'Asie sous un œil nouveau en vivant des expériences urbaines originales au sein des grandes villes asiatiques. Leur concept est simple, vous serez mis en relation avec un ami local francophone qui vous fera découvrir sa ville lors d'une balade instructive et chaleureuse, conçue sur mesure en fonction de vos envies. Voilà une bien belle occasion de s'aventurer dans des quartiers authentiques tout en échangeant sur la vie locale et les bons plans de la ville. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à les contacter de ma part bien sûr via leur site verylocaltrip.fr. Je connais personnellement l'équipe qui est derrière cette belle initiative, c'est 100% validé par Sur les routes de l'Asie, donc vous pouvez y aller les yeux fermés et moi je les remercie pour leur soutien. Retour à l'interview.
Donc au bout du deuxième jour, vous allez arriver à Sandakfu, en ayant marché à peu près 4 à 5 heures de marche par jour, mais toujours des montées avec des chemins qui sont très bien, donc il n'y a aucune difficulté. Et quand vous êtes à Sandakfu, là-haut c'est un petit village qui est au sommet d'une colline, donc je vous ai dit à 3636 mètres exactement, vous allez découvrir un panorama saisissant. Vous êtes en face du Kanchenjunga, donc, qui est le troisième sommet du monde, à plus de 8500 mètres d'altitude. Quand vous regardez à votre droite, tous les sommets qui sont à droite, il y a le Cabrou, etc. Et vous avez tous les sommets du Bhoutan, le Bhoutan qui est très proche. Donc vous voyez des sommets à plus de 7000 mètres du Bhoutan. Et si on regarde, si vous regardez sur votre gauche, c'est-à-dire à l'ouest, alors là vous avez une vue fabuleuse, parce que vous allez d'abord avoir la vue du Makalu, donc qui est le cinquième sommet de la planète, 8400 et quelques mètres. Vous avez à côté le Lhotse, la barre du Lhotse, donc qui fait 8500 mètres d'altitude. Vous avez l'Everest qui est là. Et puis plus loin, vous avez encore d'autres sommets. Donc, de Sandakfu, vous avez devant vous 4 des 5 plus hauts sommets de la planète. Et ça, chapeau. C'est pas évident, hein. Donc, vous voyez, le Makalu, l'Everest, le Lhotse, Kanchenjunga, le Pandim, etc. Donc, rien que pour ça, pour les gens qui sont amoureux de l'Himalaya ou qui sont amoureux des montagnes et qui veulent apercevoir au moins des sommets mythiques, ben, je crois que c'est un petit trek facile, adapté à tout le monde, qui peut se faire, et voilà. En plus, quand vous allez redescendre, après, dans une journée, vous passez une journée au sommet de Sandakfu, parce que vous allez vous promener dans les collines, il y a plein de petits villages avec des gens qui gardent des moutons, notamment, et des chèvres. Donc, c'est toujours très agréable, avec toujours en toile de fond cette vue des montagnes. Il y a un nombre incalculable de photos à faire, et même dans le village, où les gens, le soir, quand ils rentrent, voilà, il y a une animation. Par contre, il fait pas chaud. Parce que comme on est sur un plateau, je vous conseille d'être bien habillé quand même. 3006, c'est déjà un peu haut, sans être très haut. Et il n'y a aucun problème d'altitude, ça je vous l'affirme. Après, quand on redescend, on peut redescendre en direction de Sirikola. Donc là, on va passer vraiment, c'est ici qu'on va vraiment voir beaucoup de rhododendrons. Et on redescend. On redescend, on passe à travers des forêts de bambou aussi, des jeunes bambous. Et vous redescendez sur Rimbik pour rentrer sur Darjeeling. Donc, trekking de 4 jours à 5 jours. Pour ceux qui veulent visiter la région de Darjeeling, plus aller se balader pour voir justement les sommets himalayens, ben moi je pense que c'est l'idéal. Voilà.
Ouais, donc ça semble vraiment un très bon conseil pour les gens qui aimeraient goûter à l'Himalaya et voir ces énormes sommets devant eux. Ça semble être un très bon plan pour ça. Mais maintenant, on va prendre un peu en difficulté et en altitude et on va aller dans le Sikkim même. Et maintenant, on va aller découvrir donc ce trek de Dzongri et Goetchala. Parle-nous un petit peu de cette deuxième aventure.
Ah ben là, vraiment, on rentre dans le Sikkim. Tout à l'heure, on était dans le Sikkim, mais si tu veux, c'était un Sikkim proche du Népal. C'était un peu différent. Alors que là, vraiment, on va aller dans la région de Dzongri. Donc, nous sommes vraiment dans le Sikkim, là. Personnellement, moi qui suis un trekker depuis toujours, hein, depuis mon plus jeune âge, moi, quand ça grimpe et plus ça va haut, mieux c'est. Donc, si tu veux, j'aime tous les treks de moyenne, de basse ou d'altitude. Mais surtout, les treks de haute altitude, bon, ont toujours eu mes préférences. Parce qu'on est dans un environnement de montagne, on est au cœur des montagnes. Et ça, quand on est au cœur des montagnes de l'Himalaya en plus, je pense qu'il y a ce petit effet différent de se dire, bah tiens, on est quand même au cœur des plus hauts sommets de la planète. Donc pour aller à Dzongri, au départ Darjeeling, le mieux c'est de le faire quand même, Darjeeling ça fait quand même loin, il faut mieux partir déjà de la capitale du Sikkim, on y reviendra après, de Gangtok par exemple, et pour aller en direction de Dzongri. Donc la route, il y a une petite, il y a trois quarts de journée, même pas, une demi-journée de route, pour arriver sur Yaksum. Yaksum qui est le départ un petit peu, c'est le bazar, Yaksum Bazar. Donc c'est le départ de la route. Il y a un très bel hôtel qui avait été construit par les Anglais à l'époque, qui est resté. Donc preuve que cette balade sur le Dzongri n'est pas d'aujourd'hui, elle n'est pas nouvelle. Et je pense qu'à l'époque, quand les Himalayens voulaient faire le Kanchenjunga, donc dans les années, début du XXe siècle même, déjà des Anglais devaient y aller. Et ils aimaient bien avoir une belle résidence avant de partir, histoire de se mettre dans le bain, quoi. Donc j'aime beaucoup cet hôtel. Donc vous allez monter. C'est pas un trek difficile, Dzongri. On va monter jusqu'à 5000, pas tout à fait, 4900 et quelque chose, 4975. Les 25 mètres qui restent à monter, vous allez les monter sur le Gotchala Peak qui est là. Comme ça, vous êtes sûr que vous serez au point culminant des 5000. Voilà, c'est pour le fun, ça. Mais autrement, c'est un trek qui grimpe le premier jour. Le premier jour, ça grimpe dans la forêt. Alors, rhododendron à gogo. Donc, si vous le faites février, mars, là, les rhodos sont... Alors, ils éclatent. Ils éclatent de couleurs partout. C'est beau parce que quand vous faites le trek sur Sandakpur, vous allez faire un trek que vous pouvez faire vous-même ou alors vous avez des porteurs qui portent vos bagages. Donc ça, je vous expliquerai comment faire à la limite, qui contacter pour pouvoir faire ces treks de Sandakfu ou ce trek de Dzongri. Alors que sur Dzongri, moi ce que j'aime, ça m'a toujours fasciné, c'est quand j'allais au camp de base de l'Everest, c'est pareil, ce sont des yaks qui emmènent nos bagages. Et ça, les yaks à long poil en plus, parce que vous avez les dzo et les yaks. Le dzo, ça ressemble plus à une vache, finalement une vache croisée avec un yak. Elle peut avoir des longs poils, mais elle est beaucoup plus fine. Alors que le yak, c'est un animal qui est lourd. C'est le boule, là, avec ses grands poils et tout, ses grandes cornes. Et c'est impressionnant quand vous avez tous ces bagages comme ça et que vous pouvez faire des photos fantastiques en traversant les rhododendrons. Oh, moi, j'adore. Donc, souvent, quand je suis dans ces treks, moi, je me mets toujours en avance. Si je suis avec des amis ou si je suis tout seul, je vais organiser mon expé tout seul, je vais toujours en avant, je prends 200, 300 mètres des moments, puis j'attends dans des coins pas superbes, et puis je prends des photos, c'est là que je fais les plus belles photos avec cette expédition. Le premier jour, on va dormir dans un endroit, vous allez dormir au village de Bagdim. C'est le dernier village, le premier et le dernier village tibétain, on va dire, parce que vraiment, il y a des shortens, il y a des moulins à prière, donc il culmine à plus de 3000 mètres d'altitude, et c'est le seul village, en fait, sur ce parcours. Donc, on peut dormir en lodge, petite lodge, mais alors, c'est vraiment basique de chez basique. Donc, mais bon, on y mange bien. Et à partir du lendemain, là, on va partir sur le Dzongri. Donc, on va continuer, on est déjà presque sur un plateau, pas difficile. Mais d'un seul coup, vous allez découvrir toutes les montagnes. Elles vont d'un seul coup s'ouvrir devant vous. Et notamment, vous avez le mont Pandim qui va être là, sur votre droite. Je vous le dis, c'est le choc. Ça m'a rappelé le camp de base de l'Everest quand on passe vers le Tamserku ou qu'on passe vers la Madablam. Comme ça, vous prenez la Madablam, paf, en pleine figure, comme ça, devant vous, à plus de 7000 mètres. Et le Pandim, il est comme ça. Donc, on a l'impression de le toucher. Alors, le ciel bleu, mais d'un bleu himalayen, tel que l'Himalaya est capable d'en avoir, avec ses glaciers et cette neige gelée qui est brûlée par le soleil, qui éclate tout sous le soleil, vos yaks noirs ou à long poil ou un peu marron devant ça, des rhododendrons, ben je vous jure que ça vaut tous les treks du monde, parce que c'est la beauté à l'état pur. Et on marche sur des chemins qui sont corrects. On marche un peu des pierriers parfois, et avec il y a de l'herbe. Et quand on arrive donc vers Dzongri, là on va établir son camp, donc on met des tentes, et on est sur un plateau, donc parfois le soir ça peut souffler, mais vous avez le plateau de Dzongri, vous avez tout. Vous avez donc d'un seul coup le Pandim, vous avez le Kanchenjunga au fond, et vous avez le Dzongri, Dzongri Tar, qui est une montagne là qui se trouve juste à votre gauche. Et vous avez plein de petites... il y a les Mompas. Les Mompas, ce sont d'anciens guerriers, mais en fait, ce sont des pasteurs, maintenant des pasteurs nomades. Et ils ont des petites baraques là-haut, donc des maisons en pierre, et ils ont des chevaux. Donc ils gardent les chevaux, ils gardent les dzos, ils gardent les yaks. Et quand vous allez vous balader, ben, vous pouvez rentrer, ça fait comme des petites étapes, et vous allez les voir donner à manger aux animaux, et puis voir des gens qui vivent avec leurs chiens, en plus qui vous aboient un peu après, mais bon, faut faire attention. Et vous regardez ces gens qui vivent en altitude comme ça, et qui vivent dans un autre monde. Ouais, ça, c'est, moi, ça m'a marqué, parce que c'est beau. Pour ceux qui auraient des problèmes d'acclimatation, parce qu'on est à 4000 d'altitude, il est bien de rester une journée à Dzongri et aller justement vers le Dzongri Tar. Donc, ça fait une jolie journée à passer pour, il y a un chemin qui file, qui descend après, je sais pas où, d'ailleurs, il part à travers les montagnes, très loin. Donc, il doit aller quelque part vers quelques camps de base. Et comme ça, vous restez, vous faites une marche de 2 ou 3 heures, histoire de vous acclimater, et vous repassez une deuxième nuit à Dzongri. Et après, vous continuez, donc, le lendemain, on file sur Tamsing. Tamsing, c'est dans une petite vallée. Tamsing, Samiti. Samiti, où il y a un lac glaciaire. Donc, on est très proche des glaciers du Kanchenjunga. Et là, moi, j'ai vu beaucoup de yaks sauvages qui sont comme ça, qui viennent boire les eaux glacées. Des lacs glaciaires, donc, elles ont la couleur d'un bleu différent, un bleu glaciaire, quoi. Bleu très clair. Et avec autour les moraines. C'est très beau aussi. Donc, moi, ce que j'aime dans ce trek, c'est qu'on est en pleine nature. Et en plus, côté niveau touristique, j'ai rencontré quelques personnes qui étaient soit à Dzongri ou à Gotchala, mais j'ai rencontré très peu de personnes. Donc on est vraiment dans un univers minéral unique. Beaucoup moins de monde sur cette partie de l'Himalaya que sur la partie Everest, par exemple. Parce que tout le monde sait maintenant que sur le chemin du camp de base de l'Everest, ou Kalapatar, on va dire, puisque les trois quarts des touristes vont quand même qu'à Kalapatar, ils vont pas vraiment au camp de base, on peut rencontrer des groupes de toute nationalité. Et peu importe, de toute façon, les gens sont tous là pour voir la montagne, découvrir. Mais quand on est sur ce trek de Gotchala, on a l'impression d'être seul au monde. Donc vous êtes seul avec vos yaks, vous êtes seul avec votre sirdar, avec vos les cooks qui vous font des repas à l'indienne. Alors moi j'adore parce que là, chaque fois que je suis comme ça en pleine nature, le soir sous la tente, ils viennent nous amener notre petit chai d'abord, petit thé bien chaud, là ça fait du bien parce que dès que le soleil s'est couché, on est à 4500 mètres d'altitude, on commence à se les fouetter. Donc un petit chai au lait, ça fait du bien avec toujours ces petits biscuits Nebico. Et après, quand ils vous servent un bon dalbat avec des chapatis, si on leur demande même de nous faire, je sais pas moi, un tali, ils ont du yaourt, ils ont des petites choses, c'est fabuleux. Donc voilà, il faut un bon sac de couchage parce que la nuit il fait froid. Donc déjà, vous avez fait 5 jours de marche. Vous avez été dans un univers minéral fantastique, sans problème. Je dis sans problème, personnellement, parce que moi, j'ai jamais eu de problème vraiment d'altitude. Je suis monté à très haut, je suis monté à plus de 6000, 7000 mètres d'altitude. Je n'ai jamais eu vraiment de problème d'altitude. Par contre, il y a des gens qui, à 3500 mètres d'altitude, peuvent ressentir déjà les effets de l'altitude, les effets de la montagne. C'est pour ça qu'une nuit à Dzongri, donc Dzongri Tar, comme on appelle, c'est le coin qui s'appelle comme ça, il est bien comme ça se reposer, histoire de mettre les globules dans le bon sens, pour qu'après on n'ait pas de problème d'altitude. Parce que, en fait, le problème d'altitude, la journée, on sent, bon, on a le souffle qui est plus court, mais c'est la nuit que ça se passe. Parce que la nuit, on pense. La journée, on regarde. On regarde l'Himalaya, on regarde les montagnes, on regarde tout. Donc, on pense pas à ça. Mais la nuit, on pense. On dit, est-ce que demain, je vais pouvoir le faire? Quand on est dans sa doudoune et puis qu'on est coincé dans son sac de couchage, moi, j'avoue que je suis toujours en train de me retourner un coup à gauche, un coup à droite. Puis, ça va pas. Est-ce que je dois laisser la fermeture éclair un peu ouverte? Ou est-ce que je la ferme? Moi, ça me rappelle Tintin au Tibet, quand le capitaine Haddock, il sait pas comment il doit se mettre dans son sac de couchage. Tiens, ben, en parlant de Tintin au Tibet, d'ailleurs, quand on est sur ce circuit de Gotchala, on a l'impression d'être vraiment dans Tintin au Tibet. Parce que vous avez l'impression, quelque part, le Yeti pourrait descendre, là, des montagnes. Parce qu'il y a tellement personne, et que c'est tellement un univers minéral, c'est tellement particulier, sauvage, et je ne vais pas dire inquiétant, pas du tout, mais étonnant, qu'on pourrait avoir l'impression qu'il y a quelques créatures divines ou quelques créatures particulières ou animalières qui vont arriver comme ça devant nous. Donc voilà, enfin, ça c'était pour la petite histoire. Pour en revenir donc au sommeil, ouais, bah, faut être zen, hein. Je crois que les gens qui font du yoga, ils savent très bien. Quand on fait du yoga et qu'on apprend à maîtriser sa respiration, la nuit, il n'y a plus aucun problème. Savoir respirer en haute montagne. Moi, je l'ai appris à mes dépens souvent. Les premières années, quand j'ai fait de l'Himalaya, dans les années fin des années 70, 80, mon premier grand trek, c'était le tour d'Annapurna. Donc, je passais à 5516 mètres, je me souviens, donc au Torong Pass. Je savais pas du tout comment j'allais me comporter. Donc, bah, moi, je suis zen, de toute façon. J'ai toujours dit, moi, quand ça grimpe, c'est bon, plus ça va, on file, et on ne se pose pas de questions. Finalement, ça va toujours bien réussir. Il ne faut pas se poser de questions, hein, parce que si vous commencez à dire, je vais être malade, ou alors, est-ce que je vais tenir, ou alors, est-ce que je vais bien dormir la nuit, ou alors, il faut faire attention comment je vais manger et tout, là, vous commencez à, entre guillemets, à débloquer. Donc, vous êtes sur la mauvaise façon de penser. Il faut être toujours serein quand on est dans l'autre montagne, serein, et apprendre à respirer. Et on apprend à respirer en marchant. Donc quand on marche, on fait des respirations. Même le soir, quand vous êtes dans votre tente, vous apprenez à bien respirer comme ça, et vous verrez, vous baissez les battements de votre cœur, et après vous allez dormir comme un bébé. Voilà. Donc, moi, c'est ma façon de voir les choses. D'autres la voient différemment. Mais si vous faites du yoga, je peux dire que ça aide beaucoup pour aller en haute montagne. D'ailleurs, les grands Himalayens ont toujours fait beaucoup de yoga, sont toujours des gars zen, et la méditation aussi est là pour aider. Moi, je me souviens sur le Amarnath. Donc ça, je parle de l'ouest de l'Inde, là. Quand il y a les sadhus indiens, ces hommes nus, ces renonçants, donc ils renoncent à toute chose matérielle de ce monde, montent dans la grotte d'Amarnath à plus de 5000 mètres d'altitude, nus, et qui s'assoient sur la glace, couchés sur la glace pendant des jours entiers, sans avoir froid. Je peux vous dire qu'ils sont en pleine méditation, ils sont en pleine concentration intérieure, ils savent respirer, et à la limite, je dirais qu'ils sont en lévitation, comme les animaux qui se mettent en hibernation. Donc, à un moment donné, ils sont en dehors du monde. Donc ça, j'ai vu ça à Amarnath. Moi, ça m'a complètement marqué. Mais quelque part, j'ai appris de ces gens-là. Et quand je suis en haute montagne, comme ça, bon, mais si je sais respirer, je peux vous dire que la montagne, après, c'est plus rien. Après, la seule chose, c'est d'avoir des bonnes jambes aussi. Hein. Parce que si on n'est pas en bonne condition physique, des moments, bon, c'est pas évident. Voilà. Donc, le dernier jour, on arrive à Gochela. Donc, c'est une passe, en fait. Quand on a passé cette passe, on descend, on va en direction du camp de base du Kanchenjunga. Donc le but de ce trek, c'est d'aller justement à cette passe de Gochela. On est à peu près à l'altitude 5000. Et là, on a suivi pendant des heures la montée, enfin des heures, on a suivi pendant au moins 2 heures de montée l'immense, un des immenses glaciers du Kanchenjunga. Ça me fait beaucoup de peine à l'heure actuelle, c'est que depuis la fonte, depuis les changements climatiques, depuis, je ne sais pas, une dizaine ou une quinzaine d'années, un des glaciers du Kanchenjunga, parce qu'il y en a, beaucoup, un des glaciers, d'ailleurs que l'on voit bien en suivant Gochela, il a reculé de 12 kilomètres. Et ça, ça fait peine, parce que quand vous voyez le bout du glacier, donc qui est toujours glacier, il est tout noir, avec, on voit des cavités, on a l'impression d'avoir des crevasses, on a l'impression qu'on peut rentrer à l'intérieur, comme dans un tunnel. Et à côté de ça, vous n'avez qu'une moraine derrière qui reste. Donc il y a tout le cheminement du glacier, comme une ancienne coulée de lave, en fait. C'est pareil, mais il n'y a plus rien. Et ça, ça me fait de la peine. Mais bon, quand vous arrivez à Gochela, vous avez devant vous le Kanchenjunga. Donc, Kanchenjunga, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, 3e sommet du monde, 8549 mètres. Donc, vous avez devant vous un pic majestueux, et puis vous avez devant vous un monstre sacré. Voilà, la haute montagne. Donc, voilà ce que j'avais à dire sur ce trek de Gochela. Il est pour les aventuriers, il est pour les trekkers, mais c'est pas très difficile. Après, on revient par le même chemin, par contre, et après, on peut rentrer sur Darjeeling ou alors retourner sur Gangtok ou Sikkim.
Ouais, bah écoute, tu as réussi à nous faire voyager avec toi, même si c'est que par les mots, on a réussi à ressentir presque les émotions que tu as dû avoir pendant tes voyages et tes treks au Sikkim. Qui dit Himalaya dit aussi forcément bouddhisme. Alors parle-nous aussi de ces monastères et de ce bouddhisme très fort de cette région.
Eh ben, tu sais, le Sikkim, pendant très longtemps, c'est resté un royaume fermé, un royaume oublié. En fait, il est ouvert au tourisme, le Sikkim est ouvert au tourisme depuis les années 1974, d'ailleurs. Et c'est le plus petit des États himalayens. Donc, l'Himalaya, c'est immense. Hein. Donc, voilà, ben, en plus, il y a peu d'habitants, si on peut dire, enfin, relativement, il y a 200 ou 300 000 habitants, à peu près, où survit vraiment un bouddhisme lamaïque. À l'époque du temps de la royauté, le Sikkim jouissait vraiment d'une autonomie, relative autonomie, notamment sous l'autorité de son roi, le Shogyal, on l'appelait. Et jusqu'en 1975, le roi est resté sur place, et après il a été englobé, absorbé, même on peut dire, dans l'Union indienne, et il est devenu, je crois, si je me rappelle bien, le 22e état de l'Inde. Donc c'est là que la monarchie a été abolie. Et bon, maintenant le Shogyal, ben, il est mort. Après ça, donc il a eu plus aucun pouvoir. Et sa femme, qui était américaine, à partir de cette époque-là, donc 75, elle est retournée dans son pays. Donc maintenant, c'est un peu différent. Et la population, notamment, bon, on trouve avant tout les plus anciens habitants du pays, qui sont les Lepchas. Hein. On trouve beaucoup des Bhotia aussi. Donc les Bhotia sont venus du Tibet. Il y a environ, il y a des siècles. Hein. Et c'est d'ailleurs de ces Bhotia qu'habitait la femme, qu'appartenait la famille royale. Bon, maintenant, comme je vous disais déjà, que ce soit aussi sur Darjeeling et Sikkim, je dirais presque près des trois quarts de la population est d'origine népalaise. Donc les Népalais, finalement, ils sortent de leur pays et ils vont même jusqu'au Bhoutan. Hein. Voilà. Donc quand on arrive au Sikkim de Darjeeling, pour aller au Sikkim sur Gangtok, qui est la capitale, bon, il faut une grosse journée de route. Gangtok, elle-même, est une capitale, bon, elle a peu d'importance. Il y a un ou deux hôtels qui sont super beaux, parce qu'ils ont toujours ce charme un petit peu des anciens comptoirs britanniques. Mais il y a une rue qui est très commerçante, et en plus c'est intéressant pour les gens qui aiment bien acheter de tous ces objets tibétains, que ce soit des bols chantants ou des tankas. Bon, on en trouve beaucoup dans cette rue, il y a une rue principale là, donc voilà, ça peut être sympa. Bon, en dehors de cette rue justement où il y a pas mal de commerce, Gangtok, bon, on n'est pas une ville où on a envie de s'arrêter trop longtemps. Par contre, les environs de Gangtok sont très intéressants, notamment pour visiter le fameux monastère, un des plus grands monastères du Sikkim, le Pema Yangtze, ou on peut dire aussi le sublime lotus, qui est consacré à Padmasambhava, plus facilement connu pour ceux qui connaissent le bouddhisme lamaïque, Guru Rinpoche, donc, qui était le patron de la secte des bonnets rouges. Donc, quand vous êtes dans ce monastère de Pema Yangtze, vous avez une forêt de mâts, portant des drapeaux à prière qui entourent toute la colline du monastère. Et ça aussi, c'est quelque chose, bon, pour les gens qui aiment le bouddhisme tibétain, c'est quelque chose à ne pas manquer. Quand on est dans la région, tous les environs aussi, il y a un endroit que j'aime beaucoup, qui est au milieu des rizières, qui est à, je sais pas moi, 20 minutes de route de Gangtok, c'est Martham. Martham est intéressant parce que, d'abord, pour son petit hôtel, il y a le Martham Village Resort, qui est un, je sais pas, il y a peut-être 6 ou 7 bungalows qui sont comme ça, en étage, comme sur les rizières en étage, et qui regardent la vallée, on voit Gangtok au fond, et on a sur le côté le monastère de Romtek. Ce charmant village au milieu des rizières, ce petit Martham Village, là, est vraiment l'endroit idéal pour se poser et puis aller découvrir, ne serait-ce que l'après-midi, parce que c'est à 2-3 km de là, et le lendemain matin, le monastère de Romtek, qui abrite le plus important monastère du Sikkim. Moi, j'avoue que la première fois quand je suis allé à Romtek, qui est le siège de Karmapa, Karmapa, c'est la plus haute autorité de la branche des bonnets noirs. On dit en tibétain, on dit les Kagyupa. Moi, j'ai été scotché. Parce que quand vous rentrez dans le monastère et que vous vous mettez dans votre petit coin, on vous laisse rentrer, on ne vous dira rien. Normalement, dans certains endroits, ils ne veulent pas, c'est interdit. C'est sûr que s'il y a 200 touristes qui arrivent, ça ne le fait pas. Mais quand vous êtes tout seul et que vous allez à la puja du matin, vous allez vous mettre dans votre petit coin et vous allez voir le Hedlama qui va arriver et qui va sortir le Om qui vient de l'intérieur de ses tripes. Je pense qu'à Romtek, le moine, le Hedlama du monastère, je pense que c'est les Om les plus forts que j'ai pu entendre dans tous les moments que j'ai pu vivre dans tous les monastères tibétains, que ce soit au Népal ou que ce soit en Inde. Et là, j'avoue que moi, ça m'a marqué. En plus, ce monastère, en dehors donc de des moments où il faut être là pour le visiter l'après-midi, le matin surtout pour les moments de prière, il faut y rester pour regarder tous les petits moines qui courent à 100 à l'heure dans tous les coins pour préparer la cuisine, qui doivent s'habiller, qui courent, qui vont à l'école parce qu'on leur apprenne et puis ils doivent réciter par cœur. C'est comme ça avec le chef qui est au-dessus d'eux avec une règle debout comme ça et puis s'il y en a un qui fait le zouave, tac, il prend un coup. Donc c'est quelque part, c'est strict. Hein, c'est strict, mais c'est comme ça, c'est un monastère, c'est très tibétain. Et Romtek, en plus, à l'heure actuelle, toujours, il est gardé par l'armée indienne à cause de problèmes politiques qui sont liés à la reconnaissance d'un autre Karmapa, en fait, par les Chinois. Pour les Chinois, j'en ai déjà parlé sur l'Arunachal Pradesh, tout le nord de l'Arunachal Pradesh, les Chinois disent que c'est à eux. Sur certains coins du Bhoutan, je suis persuadé, je ne connais pas le Bhoutan, donc je ne vais pas parler du Bhoutan. Quand je ne connais pas quelque chose, je préfère ne pas en parler, mais je n'ai jamais mis les pieds au Bhoutan, à mon grand regret. Je suis persuadé que les Chinois ils disent que c'est à eux. Au Sikkim, encore, ils disent que c'est à eux toute la partie nord. Au Népal, on sait... à force d'aller au Népal, que les Népalais, les Chinois aimeraient bien prendre pied sur le Népal. Tout comme maintenant, je l'ai vu il n'y a pas très longtemps, et ils discutent avec les Pakistanais et ils disent que tout le nord du Pakistan, toute la Kumjara Pass, tout ça, c'est chinois. Alors c'est pour ça que l'armée indienne, le Ramtek est en zone indienne, donc il n'est pas question que les Chinois viennent mettre leur nez là-dedans. Mais... que les Chinois reconnaissent notre karmapa, parce que je pense que ça les arrange. Voilà. Le vrai monastère de Ramtek, en fait, il a brûlé, comme beaucoup de monastères au Sikkim, qui étaient en bois à l'époque. Et souvent, ils ont été brûlés, non pas parce qu'il y a eu des conflits, mais parce qu'avec toutes les petites bougies qu'ils mettent partout, toutes les petites lampes avec le beurre d'yak, etc. Donc, il y a eu des incendies comme ça, et c'est dommage. Mais enfin, le nouveau monastère est assez fabuleux. Donc, ça vaut le coup d'y passer une journée. En plus, sur place, vous y trouvez des tas de petits objets à acheter, des Bouddha, etc. C'est toujours quelque chose à acheter. Voilà, donc pour moi, en dehors de la montagne, donc, le Sikkim, bah, c'est Ramtek, siège de Karmapa, donc la plus haute autorité de la branche des bonnets noirs, les Kagyupa. Ouais, puis quand on a fini son voyage au Sikkim et quand on a fini son voyage à Darjeeling, bon, on redescend dans les basses vallées, donc vous redescendez sur Kalimpong en général. Et moi, ce que j'aime à Kalimpong, d'ailleurs, il y a un marché qui est extraordinaire, très indien, mais surtout, il y a un monument qui est très amusant. Il y a une église, l'église Sainte-Marie, où Jésus ressemble à Bouddha. Donc, c'est assez fabuleux. Donc, si vous arrêtez, passez par Kalimpong, qui est une ancienne petite ville de villégiature des Anglais, vous avez de très beaux hôtels, vieux style british, et notamment, si vous avez l'occasion de dormir dans la chambre où Alexandra David Neal a passé une grande partie de sa vie quand elle partait comme ça sur le plateau tibétain. Voilà. C'est quelque chose que j'ai retenu de Kalimpong, qui est une ville sympa. Donc, pour moi, cette région, Sikkim, Darjeeling, elle est associée aussi à deux amis qui sont Anne-Marie Chatenou, qui est française, qui est de ma région, qui est à côté de Lyon, et son mari Binay Sharma, qui lui est népalais. Et qui vit, ils vivent à Delhi, mais ils ont une agence qui s'appelle Namasté Voyage, et ce sont de grands amis, et ce sont des grands connaisseurs de l'Inde, que ce soit du sud au nord, l'est et l'ouest, et en plus, donc, ils ont leur Namasté Duplex à Darjeeling. Je conseille à tout le monde d'y aller, parce que d'abord, vous avez l'impression d'être à la maison, vous pouvez faire votre thé, votre café vous-même, votre pain, vous avez un pain extraordinaire, et vous avez des vues du, quand vous êtes devant la petite cheminée et au feu de bois, vous avez devant vous le Kanchenjunga. Chapeau. Voilà, donc merci Namasté, merci Romain. Et tu vois, je sais que tu vas aller très bientôt dans ces coins-là, tu vas y partir dans quelques jours. J'avoue que je partirai bien avec toi parce que c'est une région que j'adore.
Oui, c'est vrai, dans quelques semaines à peine j'y serai. Donc merci beaucoup Thierry déjà pour moi-même, pour m'avoir donné toute cette inspiration pour mon voyage. Et puis bien sûr pour tous les auditeurs qui nous écoutent, qui sont tentés par cette partie de l'Inde moins connue. Cette Inde d'altitude, cette Inde de l'Himalaya, le bouddhisme tibétain, toutes ces merveilles à découvrir. En tout cas, on sait que c'est pas la dernière découverte qu'on va faire ensemble en Inde, on a encore un bon programme devant nous. Et puis d'ici là, je te dis à bientôt. Merci Thierry.
Ok, merci, à la prochaine.
Nous voilà au bout de ce 68e épisode de Sur les routes de l'Asie. J'espère qu'il vous aura transporté dans cet ailleurs unique au monde qu'est l'Himalaya. C'était officiellement le 10e épisode sur l'Inde dans le podcast. C'est vrai que le pays mérite bien toute cette attention tant il y en a à découvrir. Et ce n'est pas terminé, vous vous en doutez. En tout cas, si vous souhaitez retrouver les informations évoquées par Thierry pour peut-être organiser votre prochain voyage dans la région, vous pouvez vous rendre sur le site web à l'adresse suivante sur lesroutesdelasie.com/68. L'enregistrement de cette interview date un petit peu et entre-temps, je me suis moi-même rendu à Darjeeling, pas au Sikkim malheureusement car le temps ne s'y prêtait guère. C'était l'année passée pendant mon voyage de 2 mois en Inde que je relatais avec mes petites vidéos de vlog. Alors allez y faire un tour si ça vous dit via la chaîne YouTube de Sur les routes de l'Asie. Et puis pendant que vous y êtes, vous le savez, je compte beaucoup sur vous pour me donner un petit coup de projecteur en me laissant une note et un commentaire dans Apple Podcast, ce qui aide vraiment à le faire découvrir à d'autres personnes. J'ai eu beaucoup de commentaires récemment et je vous en remercie du fond du cœur. Aujourd'hui, j'aimerais citer Marini31 qui a mis 5 étoiles en disant « Merci, ce podcast est vraiment captivant, les interviews sont intéressantes et les intervenants nous permettent de voyager avec leurs mots tout simples sur leurs différentes histoires. J'aime beaucoup vous écouter et vous me donnez beaucoup envie de découvrir l'Asie, mais aussi le monde à travers vos récits. Merci. » Fin du commentaire, et bien que dire si ce n'est merci à mon tour pour tes mots très gentils. Je suis on ne peut plus ravi que toutes ces discussions te donnent envie de faire ta valise et de parcourir l'Asie et le monde. C'est bien sûr un des buts avoués du podcast. Et ça me fait penser que parfois je reçois des messages d'auditeurs qui ont fait le pas et qui sont allés sur les traces de mes invités. Ça me fait à chaque fois très plaisir et bien sûr n'hésitez pas à continuer de m'envoyer des nouvelles. Et puis si vous voulez m'aider encore un peu plus avec ce podcast, vous le savez, vous pouvez contribuer financièrement à partir d'un petit euro par épisode. J'ai déjà récolté un peu de soutien, mais pas assez, je dois dire, pour m'investir encore plus dans la production d'épisodes à côté de mes autres activités qui me prennent beaucoup de temps. Alors si vous voulez faire partie du développement du podcast, rendez-vous sur ma page Tipeee pour le faire. Le lien est sur mon site web et la description de cet épisode. Voilà, c'est tout pour cette fois. Je vous donne rendez-vous bientôt pour un prochain épisode, normalement d'ici la fin de l'année. Et d'ici là, merci pour votre écoute et excellent voyage en Asie.